Bonjour et bienvenue au Bulletin Azur 007. Nous sommes le 10 mai 2012 et donc nous sommes comme d'habitude tous les trois. Non, ça fait un certain temps que nous n'avions pas été tous les trois
C'est vrai.
dans ce Bulletin Azur. Donc l'URL de référence du Bulletin Azur c'est akms/lebulletinazur tout collé, tout en minuscules, etc. On fait des annonces également sur Twitter, sur @WindowsAzureFR et nous avons chacun notre compte Twitter. Donc dans l'ordre des diapos, charité bien ordonnée commence par soi-même. @Benjguin, Benjamin Guinbertière.
Bah, Pierre Cousy, si c'est l'heure de
Oui.
diapo,
Et
Pierre
Thomas
Cousy.
Comté, c'est moi le troisième larron.
Voilà, @Tom Comté.
@Tom Comté.
Ou @Tom Comté.
@Tom Comte.
Très bien, donc nous appuyons sur des épisodes de nos grands cousins américains, le Cloud Cover Show disponible sur Channel 9. Et depuis le 3 avril, date d'enregistrement du dernier épisode hors témoignage, il y a eu 5 épisodes, 75, 76, 17, 18, 19.
Oui, avec un renouvellement maintenant complet de l'équipe du
Exact,
Cloud Cover Show.
puisque maintenant les deux protagonistes principaux sont Nathan Totten et Nick Harris. Donc, des épisodes sur plein de sujets, entre autres l'épisode 75 sur lequel on va reprendre un extrait de la démo. Et puis l'épisode 76 où là ils représentent des gens d'une équipe, donc là c'était pas tellement passionnant. Sur l'épisode 77, en revanche, des mises à jour sur le PowerShell, ça c'est toujours très
ça, ça c'est
intéressant.
Toujours un
ça
truc vraiment intéressant.
Ça c'est bien le
Ouais, ça c'est
PowerShell.
bien.
Security and Compliance,
Sujet
sur l'épisode
important.
78, on
Mmh.
va évoquer le sujet aussi.
Tout à fait.
Et puis, toujours dans le cadre d'un accélérateur, enfin d'un toolkit pour développer sur Windows 8 et sur Windows Azure, des nouvelles démonstrations dans l'épisode 79 avec entre autres les packages Nuget qui arrivent également sur ce toolkit. Les actualités locales d'abord. Donc, le 24 mai, nous avons une après-midi ou un après-midi du dev, on peut dire les deux, sur Hadoop, donc on va voir un peu dans différents langages comment est-ce qu'on peut développer sur Hadoop sur Azure, rentrer un peu plus dans le détail, voir également tout ce qui gravite autour d'Hadoop, donc comment est-ce qu'on peut atterrir sur la plateforme SQL aussi, est-ce que HPC sur Azure est mort, différents sujets comme ça. Donc c'est le 24 mai, c'est dans les locaux de Microsoft, vous pouvez vous inscrire à cette adresse-là, akms.amdev, comme après-midi du dev, tiret Hadoop. Le 20 juin, nous avons un événement qui va parler de plein de choses dont vont nous parler Thomas et Pierre.
Eh ben, plein d'actualités Azure qui sont à venir et dont Pierre va nous donner les détails tout de
Oui,
suite.
ben en gros, on a quelques nouveautés qui vont finir par arriver parce que vous les voyez à droite à gauche. Donc on ne sait pas exactement quand elles arriveront, on sait simplement qu'on a décidé, nous, le 20 juin, de faire un point complet
Voilà.
sur la structure d'Azure pour, en gros, la fin de l'année 2012.
De toute façon, tous les 6 mois, c'est bien de faire un point sur qu'est-ce qui se passe dans Azure parce qu'on a quand même des gros paquets de
Voilà.
releases qui arrivent à peu près 2 fois par an. Bah, ça fait longtemps, la dernière fois
Ouais.
c'était quoi? C'était à l'automne,
Ouais, à
hein,
l'automne,
à l'automne,
ouais.
voilà, on arrive à l'été, bon, on se dit qu'il y aura peut-être un
Voilà,
débarquement
on est
de
limite fin de
Macross à
printemps
l'été.
même.
Voilà.
Voilà.
Donc vous
Donc,
êtes nombreux, on va essayer de trouver 300 places pour faire le tour
voilà.
complet. On va essayer de trouver des speakers d'un peu partout. On va essayer de trouver des gens capables de répondre à des questions très précises.
Voilà.
Donc, allez jeter un œil, inscrivez-vous, déplacez-vous, ça vaudra vraiment le coup.
Exactement. Au niveau des nouvelles locales, on a également toujours le blog de Windows Azure France où vous retrouverez des live meetings, des événements, entre autres ceux-là, mais d'autres également. Donc allez y faire un tour régulièrement, vous y trouverez tous ces éléments-là. Les actualités Windows Azure de façon générale. Alors, on vous parlait des différents live meetings. Donc, Pierre, si tu ou
Ouais,
Thomas.
ou série de live meetings qui se trouvent être délivrés par nos partenaires Windows Azure Circle, donc ce sont
C'est
des
ça.
partenaires intégrateurs spécialistes Azure, tous, donc qui ont chacun des expériences et qui font des présentations de 45 minutes à 1 heure sur des sujets précis. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. On voit MongoDB, tout faire tourner MongoDB dans Azure, une session spécialisée sur les jeux Facebook dans Azure, pas mal de choses sur les performances, performance Azure en général, performance du stockage. Et puis un témoignage client de Le Kiosque qui a une
Ouais.
application iOS, Android, Windows Phone qui a beaucoup de succès pour lire les
Ouais.
magazines sur mobile
Ouais.
et dont l'infrastructure est entièrement hébergée sur Azure. Et il nous explique un peu comment ils font ça.
Très bien. Donc ça, c'est le détail de l'après-midi du dev du 24 mai. Donc vous pouvez retrouver effectivement le lien pour s'inscrire ainsi que le détail de l'après-midi. SQL Server 2012 est disponible, mais quel est le rapport avec Windows Azure? Eh bien, entre autres, l'intérêt, c'est que on a ces outils, les SSDT, SQL Server Data Tools, qui permettent d'interagir avec SQL Azure de façon assez sympathique. Par exemple, ici, je peux faire, donc je suis sur un serveur SQL Azure, je vois mes différentes bases. Là, je vois une table, et dans la table, je peux aller, par exemple, modifier les données directement depuis ici, alors que depuis un SQL Server Management Studio, en fait, on se retrouve plutôt à taper du code un peu à l'ancienne.
Vous savez que finalement, dans Visual Studio, on ne pouvait pas faire, on peut faire ça avec SQL Server, bien sûr, mais on ne pouvait pas le faire avec SQL Azure, donc éditer les tables.
On avait la connectivité depuis très longtemps, ça marchait très bien, on pouvait émettre des requêtes, on pouvait jouer avec différents éléments, mais en termes d'ergonomie, on n'avait pas l'intégralité des fonctions qu'on avait sur un SQL Server classique, et maintenant c'est fait.
Donc là, effectivement, du coup, on peut, par exemple, aller modifier une table. Et le point intéressant, c'est que si je modifie la table, donc là, je peux le faire directement ici en rajoutant une colonne ou je peux le faire dans le code qui est là. Si je le fais dans une colonne ici, par exemple, je rajoute une colonne à effacer, je peux faire un update. Et donc là, ça va aller mettre à jour directement ma base SQL Azure. Donc je peux soit générer le script, soit faire l'update database directement. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est une table à laquelle je tiens énormément. Donc, très bien. On a ensuite Online Backup Services.
Oui, alors c'est une nouveauté qui arrive avec la prochaine version de Windows Server.
Oui.
Donc c'est... Alors on a été très doué pour le nommage. On s'est dit comment est-ce qu'on nommerait un service de backup en ligne. On l'a appelé Online Backup Service.
C'est pas bête,
c'est simple.
C'est assez descriptif.
Ouais.
Et donc il est dès aujourd'hui testable. Si vous allez sur le site Connect, vous avez accès à 10 gigas d'espace de backup pour jouer un petit peu avec. Sa particularité, c'est qu'il s'appuie sur les blobs, donc Azure Blob Storage, pour tout ce qui est justement stockage des backups que vous mettez en place. Donc une utilisation intéressante d'Azure. On va en voir d'autres d'ailleurs dans l'avenir. Plein de produits aujourd'hui commencent à arriver sur Azure. Ouais. Et ceux-là, c'est un des premiers qui sont annoncés.
Très bien. Windows Azure Toolkit pour Windows 8, donc on pourra revenir dessus bien évidemment. Et donc, entre autres, les dernières versions, il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Donc on va revenir dessus tout à l'heure. Comment mettre le .NET Framework 4.5 bêta et ASP.NET MVC 4 sur Windows Azure?
Oui, alors c'est un poste intéressant parce qu'il sera parfaitement inutile d'ici 2-3 mois.
Oui.
Et donc, il illustre bien comment jongler avec les différents toolkits et versions de Visual Studio ou du framework lorsqu'on a besoin de toucher à quelque chose qui n'est pas tout à fait standard.
Ouais.
Donc, en deux mots, le problème de ce garçon est tout simple. Hein. Il veut installer des composants qui sont aujourd'hui en bêta. Il veut développer avec Visual Studio 11 tout ça. Mmh. Et aujourd'hui, Visual Studio 11, c'est pas faire de cloud.
Ouais.
Donc il va tout bêtement combiner deux choses. Il va créer un service Azure dans Visual Studio 10. Il va ajouter en dépendance le runtime.NET. Oui, dans Visual Studio 2010. Oui.
Ouais.
Il va ajouter en dépendance le runtime.NET dont il a besoin.
Ouais.
Il va déclencher son installation automatiquement par une startup task classique.
D'accord.
Et ensuite, il va ajouter à ce squelette-là son service développé dans VS11. Et donc
d'accord.
Pour ça, il y a une technique qui marche très bien. C'est simplement d'utiliser CSPAC et d'utiliser donc les utilitaires du SDK pour Azure et directement en ligne de commande faire l'assemblage des différents morceaux. Donc, ça ne sert pas à grand-chose en l'état. Puisqu'encore une fois, tout ça sera automatisé dans très peu de temps.
Oui, mais
pour les impatients éventuellement.
Voilà, pour les impatients qui veulent tester tout de suite un service développé en 4.5 sur Azure. Sachant que bien sûr, ça sera supporté dès qu'il sera en release finale. Mais...
Voilà, et c'est intéressant de voir justement les différents bouts qu'on peut articuler les uns avec les autres lorsqu'on a besoin de sortir du cadre standard.
Très bien. Eh bien, merci à Noopman ou Magnus Martensson.
Oui.
Des mises à jour sur Servicebus EAI et EDI Labs. Donc, c'est une version qui est... Enfin, c'est dans CTP. Et donc... maintenant, on peut y accéder facilement. Et y a tout un tas de mises à jour qui ont été faites. Hein. Si on en prend une au hasard, par exemple, on peut envoyer maintenant des messages vers les bridges dans différents encodages. Donc, c'est quand même vachement mieux. Donc, pour ceux qui suivent cette partie-là, vous pouvez aller regarder le détail. Comment un blog post sur comment
un blog post d'une personne bien connue.
Voilà, comment aller acheter un certificat, donc là en l'occurrence sur un fournisseur de nom de domaine, en l'occurrence là j'ai pris Gandhi, avec un nom de domaine que je n'utilise bientôt plus, qui est appartementavantecourbevoie.fr. Et donc, j'ai pris comme exemple le fait de créer un certificat sur le nom de domaine myapp.appartementavantecourbevoie.fr. Dire exactement comment est-ce que se passe l'achat de ce certificat. Enfin, là, il est inclus par le fournisseur de nom de domaine. Comment est-ce que je fais ma requête depuis le IIS local? Comment est-ce que j'envoie cette requête au fournisseur de nom de domaine? Quels sont les mails auxquels je réponds, etc. Et une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que j'inclus ce certificat sous forme de PFX dans un projet et que je le déploie dans Windows Azure et que je peux ensuite effectivement accéder dans Windows Azure à un service qui est protégé par ce certificat-là. Donc là, qui est un certificat de production et pas un certificat de test.
Du rôle, hein, j'ai l'impression.
Exactement.
Ah oui, balancing, tout ça.
Ouais, tant qu'à faire.
C'est comme bien fait.
Voilà. Donc, non seulement ça améliore les chances de vendre de l'appartement. Oui. Parce qu'en termes d'assaut, ça valait beaucoup mieux. Mais surtout.
Pas tant que ça.
Vous n'avez plus d'excuses. Mais maintenant qu'on en a parlé en vidéo. Mais surtout, vous n'avez plus d'excuses pour louper ce genre de choses. Parce que c'est franchement. On sait que les certificats, ça fait peur, c'est compliqué, etc., etc. Et là, vous avez le truc de mâcher de A jusqu'à Z. Donc, allez-y, suivez les étapes.
Ça ne marche pas forcément. C'est garanti. Voilà.
Exactement.
Garanti par Benjamin.
Windows Azure Media Services.
Oui, donc une preview qu'on a sortie, dont on parle depuis plus d'un an maintenant, de mars de l'année dernière, qui est donc une plateforme de gestion de médias. Donc, médias vidéo hébergés dans Azure. D'accord. Donc, c'est du plateforme as a service, mais dédié médias pour le coup. Donc, au-dessus d'Azure, on a construit toute une plateforme qui permet finalement de gérer tout un workflow de traitement et de diffusion de médias.
D'accord.
Donc, typiquement, on va pouvoir envoyer des vidéos à un certain format. On peut avoir une phase d'encodage. On peut avoir une phase de transcodage, donc transformation à plusieurs formats. Des phases de protection, on va pouvoir appliquer du DRM. Et puis des phases
digital
de diffusion.
Digital Rights Management.
Absolument, Digital Rights Management. On va gérer notre DRM Play Ready, d'autres DRM, d'autres fournisseurs. D'une façon générale, dans la plateforme, on utilise nos briques connues, on va dire, pour la gestion de médias, plus des briques qui sont fournies par des partenaires.
Ouais.
Et en plus, c'est pluggable, donc des partenaires peuvent venir ajouter leur propre encodeur, DRM, etc. Et on va gérer, donc c'est vraiment du end-to-end, quoi. C'est depuis l'ingestion jusqu'à la diffusion. Et au niveau de diffusion, chose très attendue, on va enfin gérer du smooth streaming pour la diffusion des vidéos. Et également le protocole équivalent chez Apple qui va permettre donc de streamer des vidéos sur des iDevices divers et variés. Donc on va pouvoir avoir vraiment un format en entrée et diffusion en smooth sur tous les devices qui existent, PC, iOS, Mac, etc., Flash Silverlight, et entre les deux, toutes les phases de traitement qu'on veut, avec en plus la possibilité de plugger ses propres...
En termes d'expérience utilisateur, le smooth streaming, c'est le fait que quand on a un réseau pourri, on a une image floue, en gros, mais que ça continue à avancer.
Ou alors au début, c'est flou, et dès qu'on a déterminé que la bande passante est suffisante, on passe sur de la haute qualité.
Ouais,
et ça implique de générer X versions, finalement, X qualité de la vidéo, et donc il faut quelque chose pour automatiser tout ça. Media Services le fait.
Merci, Media Services. Les achievements.
Achievements.
Alors, voilà un sujet. Ça, c'est un vrai sujet.
Voilà, c'est le truc, quand même, que les développeurs attendaient dans Windows Azure.
Ouais.
C'est de pouvoir publier sur Facebook et dans Twitter les achievements et sur Channel 9. Les achievements, quand ils font des trucs avec Azure grâce au Visual Studio Achievements.
Par exemple, Get on the Bus.
Voilà, Get on the Bus, si on utilise le service bus ou je sais plus ce qu'il y a quand on ajoute un worker role. Il y a Keep Heading into the Cloud. Pour 10 déploiements, vous gagnez un
Phone
un
in the Cloud.
Ah, voilà.
Phone in the Cloud.
Donc, si vous voulez briller auprès de la société avec des achievements Windows Azure, eh ben c'est possible maintenant.
Ouais, ça c'est cool. Bon, donc, à vos Visual Studio.
Ouais.
Migration d'une application ASP.NET vers Azure.
Donc sur InfoQ, une synthèse finalement d'un blog post très détaillé et très intéressant qui passe en revue finalement quand on migre une application ASP.NET existante. Voilà, l'original, qui est vraiment fouillé et qui répond à des questions très classiques qu'on rencontre, j'ai une application ASP.NET existante, je vais la mettre dans Azure, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi les trucs voilà, de base? Alors, bizarrement, on n'a pas, un document super bien pour ça, et ce blog post est vraiment très synthétique. Donc, les questions, c'est par exemple, qu'est-ce qui arrive à mes sessions? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je devrais utiliser comme storage? Dans quel cas? Comment je vais gérer l'identité? Est-ce que je peux reprendre mes providers existants?
La configuration.
Tout ce genre de, voilà, comment je vais gérer ma config? J'ai des choses dans mon web config. Est-ce que je les y laisse? Est-ce que je les mets ailleurs? Voilà, tout ce genre de questions. Donc il y a voilà, les 7 points, on va dire, incontournables, les 7 questions à se poser quand on a une application existante, qu'on veut la migrer dans Azure. Donc un très bon blog post.
Donc merci à Skris.
Oui, Skris, c'est un dev guy. Ouais. On va l'appeler dev guy.
Ouais. Merci beaucoup à lui.
Merci dev guy.
Twilio.
Alors Twilio, c'est une. On avait déjà parlé d'une autre offre permettant de gérer du mail très facilement parce que Windows Azure propose pas directement d'envoi de mail. Mmh. Et ben on continue l'exploration un petit peu des fonctionnalités complémentaires au service cloud de base. Et aujourd'hui, on s'intéresse à deux services complémentaires qui sont tout ce qui est téléphonie et SMS. Et donc Twilio, c'est une boîte qui s'est spécialisée sur ces deux domaines, donc, qui propose à la fois des automates pour messagerie vocale et robots vocaux d'orientation pour tout ce qu'on veut, donc cliquer sur un, etc., etc. Et puis également de la communication par SMS dans les deux sens, soit vous recevez, soit vous envoyez. Et l'annonce intéressante, c'est que pour les clients Azure, ils ont aujourd'hui une offre gratuite qui permet de bénéficier de 1000 SMS ou 1000 minutes de téléphonie, si ma mémoire est bonne. Et donc vous pouvez jouer un petit peu avec ces API et me les utiliser à faible charge, gratuitement, dès aujourd'hui, si vous êtes sur une plateforme Azure.
Tu voulais envoyer des SMS à tous vos amis, par exemple.
Gratuitement.
Gratuitement.
Ça, c'est une bonne idée.
Et depuis les US.
Bon, mais ça permet aussi de déclencher pas mal d'actions puisqu'il y a tout un petit système de description, de petits workflows qu'on décrit et qui permet de transmettre l'information X ou Y ou bien même d'appeler ses amis en disant appuyez sur 1, sur 2 ou sur 3 pour que ceci ou cela se passe. Il y a tout un langage XML de description autour de ça. Donc c'est très sophistiqué et pas très, et pas très compliqué de prise en main.
Très bien. Super, le Windows Azure Trust Center.
Ah oui, le Windows Azure Trust Center, donc c'est une nouvelle section sur le site windowsazure.com, donc windowsazure.com/trustcenter,
voilà,
qui regroupe des informations importantes sur la sécurité et le respect de la vie privée au niveau de l'hébergement Azure. Donc là encore, ce sont des questions qu'on nous pose souvent, alors bon, plutôt sur les grosses entreprises ou voilà, les éditeurs logiciels qui vont manipuler des données sensibles et ou personnelles, d'accord. Les questions sont de deux ordres. Généralement, il y a comment gérez-vous la sécurité dans le data center, d'accord, concrètement comment ça marche, et comment gérez-vous les problèmes de vie privée, d'accord. Et le Trust Center, il est là pour répondre à toutes ces questions. Donc c'est très détaillé. Sur la sécurité, on a un document assez énorme d'une cinquantaine de pages qui reprend une grille qui a été mise au point par la Cloud Security Alliance, une grille de, je dirais, à laquelle tous les fournisseurs de cloud se prêtent et qui vérifie tous les processus d'administration, d'opération dans le data center. Ça va de l'administration des machines jusqu'aux providers électriques, les groupes électrogènes, etc. Donc ça, c'est la partie sécurité, c'est très détaillé. Sur la partie vie privée, on détaille toutes les lois auxquelles on se conforme, typiquement Safe Harbor pour l'Europe. Et au niveau compliance, on détaille donc les certificats qu'on a obtenus, typiquement ISO 27001. Donc ce sont des certificats internationaux qui garantissent la qualité d'exploitation des data centers.
D'accord.
Très bien. Là-dedans, on trouve beaucoup de réponses sur tout ce type de questions.
Et il y a un des épisodes du Cloud Cover Show d'ailleurs qui parle en détail de tout ça.
Qui est dédié à ça. Ouais. Ce sont des questions récurrentes et assez importantes.
Ouais. Donc si le sujet vous intéresse, si vous êtes concerné par ces sujets-là, on vous encourage à aller regarder cet épisode du Cloud Cover Show qui rentre dans le détail de tout ça, ou d'aller regarder le site et de lire la documentation de référence.
Exactement.
Des nouveaux centres de calcul.
Oui, nouveaux centres de calcul, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On a deux nouveaux centres de calcul aux
US. Plus grosses calculettes maintenant.
Voilà, on a plus de calculs. Donc, côte Est et côte Ouest. Donc, avant, on avait Nord-Sud.
Ouais.
Maintenant, on a plus Est-Ouest aux US. Hein. Pour l'instant, on n'a que le compute et le storage, mais bien entendu, les autres services vont être démarrés progressivement sur ces deux nouveaux data centers.
Cool. Migration automatique d'ACS V1.
Oui, alors c'est une news intéressante, pas tellement pour ACS, bizarrement. Donc pour résumer, ACS, toute la partie Access Control Service, a eu deux grandes périodes, enfin trois grandes périodes, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et donc il y a eu deux grandes périodes de production, ACS 1 et ACS 2, qui a des formats un petit peu différents, des métadonnées un petit peu différentes. Et du coup...
La deuxième s'appelant ACS 2 et la première ACS 1.
Oui, on a trouvé ce truc-là pour se retrouver. Et du coup, on a eu le souci de la migration qui était derrière.
Oui.
Le point intéressant là-dessus, c'est la décision qui a été prise. On a communiqué très longtemps à l'avance sur le fait qu'on allait avoir une différence de format et de comportement entre ACS 1 et ACS 2. On a écrit tous les outils d'automatisation, de transformation d'un service déployé en version 1 pour le basculer en version 2. Et on a également fait la pub de ce truc-là.
On parle de production pour tout ça. Hein. C'est pas du tout des CTP, des labs ou des choses comme ça. C'est que de la production, là.
Voilà. Et de la même façon qu'aujourd'hui, on versionne à peu près tous les éléments qui sont dans Azure, que ce soit l'OS, que ce soit les API. Bref, tous ces éléments-là sont toujours disponibles et versionnés.
Ouais.
Lorsqu'on se heurte à une incompatibilité parce qu'on a des fonctionnalités nouvelles qui arrivent, eh ben, on communique non seulement sur de la version, mais surtout, tout un plan d'accompagnement qui va autour. Voilà, donc à suivre et surtout pour se rassurer et découvrir qu'aujourd'hui...
voilà, que les changements d'API sont maîtrisés, sont prévus, accompagnés, et qu'une API ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Et donc ACS, oui, c'est une API qui a deux ans, quoi, quelque chose comme ça.
Depuis la sortie de...
La sortie, c'est ça, ça doit faire plus de deux ans. Donc c'est juste pour donner une idée un peu, voilà, c'est une API qui a deux ans, qui est retirée maintenant, donc... on a largement le temps de s'adapter et de porter l'application sur la nouvelle version.
Voilà. Et face aux changements brutaux d'API de certaines personnes autour de nous, même dans la galaxie Microsoft, hein, il y en a eu sur des domaines qui ne sont, sont pas à la partie cloud, et c'est important de rassurer là-dessus et de prouver qu'on tient nos promesses.
Donc voilà, je pense que nous avons fait le tour parce que nous avons déjà vu cette page.
Ah oui, là, on a bouclé.
Donc c'est un signe. Très bien. Donc nous arrivons ensuite à... La suite.
Tout de suite, la démo. Alors,
c'est la démo. Mais avant la démo, donc le but slide de la démo, c'est de montrer qu'on peut utiliser Service Bus sur sa partie asynchrone, donc pour les queues et les abonnements, donc queues on topics en anglais, et qu'on peut les utiliser depuis une application de type Metro Windows 8. Donc, ici, d'abord la théorie, qu'est-ce que c'est qu'une queue, qu'est-ce que c'est qu'un topic et un abonnement. Donc, une queue, c'est assez simple, on envoie un message, donc là par exemple, un processus de saisie va envoyer des messages avec des précommandes, donc on va avoir, ou des commandes, enfin tout un tas de messages qui sont dans la queue. De l'autre côté, un processus, par exemple, de prévalidation sur cet exemple fonctionnel, va aller récupérer les messages dans la queue, donc là c'est à la sortie de la queue. Mais on peut vouloir avoir un scénario un tout petit peu plus compliqué qui est que plutôt que d'avoir simplement donc tout le monde qui envoie ici et un seul qui reçoit ou en tout cas un seul groupe d'ordinateurs qui reçoit de façon concurrente, on peut avoir besoin d'avoir plusieurs groupes d'ordinateurs qui reçoivent de façon concurrente. Par exemple, on peut avoir un processus de précommande, un processus de commande et un processus d'audit, par exemple, qui va récupérer tous les types de messages. Et dans ce cas-là, on va faire traverser les messages non pas dans une queue, mais dans un topic qui est la partie en amont de la queue, l'équivalent de la partie en amont de la queue, et dans des subscriptions, abonnements en français, qui est la partie en aval de la queue. Donc on va avoir topic et subscription ou simplement des queues quand on a juste un ici. Et donc là, par exemple, ici, je vais pouvoir avoir les précommandes qui sont un curseur, en fait, sur les messages qui sont ici, les commandes qui sont un autre curseur, etc. Et l'intérêt aussi de ça, c'est que dans les abonnements, on peut rajouter des abonnements alors qu'il y a déjà des messages qui sont arrivés. Et donc, on va, du coup, créer un nouveau curseur à partir des messages qui sont encore, qui arrivent à partir du moment où on a créé le nouvel abonnement. Donc, ça permet, en fait, de rajouter des abonnements après coup. Au runtime. Donc dans l'exemple que je vais vous montrer, en fait c'est un exemple qui est apparu, donc vous pouvez aller sur whatwindows8.codeplex.com hein, où il y a le Windows Azure Toolkit pour Windows 8 qui permet de faire bien d'autres choses également, entre autres les push notifications. Donc là sur la partie Service Bus elle-même, en fait ce qui va nous intéresser ici, c'est le support de Service Bus pour les applications de type Metro. Donc qui est apparu dans la version 1, 2, 3. Et là, en l'occurrence, la démo que je fais est sur la version 1, 2, 4, qui, évidemment, inclut aussi ce qu'il y avait dans la version 1, 2, 3. Donc, comment est-ce que ça se présente? Donc, on a, alors déjà, dans, au niveau du répertoire, en fait, où on a notre toolkit qui a été installé, on a un répertoire samples, et donc exemple. Et dans ce répertoire samples, il y a la partie service bus qui contient donc cette application Metro. En fait, ça s'appuie sur une librairie qui est en fait la partie service bus, donc qui est l'implémentation des API d'accès aux queues et aux topics et subscriptions depuis une application Metro Style, donc en VS11 en particulier. Donc, dans ce samples, on ouvre cette solution-là. Donc là, je l'ai déjà ouverte. Et puis, on va aller remplacer ici dans l'application, donc ça c'est dans l'application Sample Browser, on va aller dans app.xaml, et dans l'app.xaml.cs, on va aller renseigner le service namespace, l'issuer name et l'issuer secret, sachant que ces éléments-là sont fournis par le portail, donc ici. Donc là, je pense que j'avais un timeout en termes de connexion. Donc là, par exemple, j'ai créé un nouveau namespace qui s'appelle le bulletin Azure. Et dans ce namespace, le bulletin Azure, j'ai entre autres une clé d'accès. Et donc, c'est le bulletin Azure, c'est ce que je vais mettre ici. Ici, je vais mettre le bulletin Azure. L'issuer name, là, je vais garder honneur. Et l'issuer secret, c'est la clé qu'on a sur le portail ici. Donc, c'est la clé que j'obtiens ici. Donc, à partir de là, je vais pouvoir faire le test. Et donc, je vais lancer ça sur mon Windows. Donc, le premier, donc il y a trois en fait démonstrations. Une première démonstration qui sont les queues simples, donc la partie haute qu'on avait créée tout à l'heure. Donc là, par exemple, si je crée une queue commande, par exemple, je crée la queue. Et à partir de là, je peux envoyer un message, donc par exemple livre 1 ou livre un message avec livre 1. Je vais créer un autre message avec livre 2, donc ça, ça va être effectivement celui qui envoie les messages. Et de l'autre côté, le processus qui lui va traiter les commandes va faire un receive message, donc là, et puis receive message à nouveau. Donc là, en fait, l'implémentation de cet exemple fait qu'il affiche des toasts, au niveau donc des notifications de type toast au niveau de l'application Metro. Mais effectivement, on peut faire tout à fait autre chose. Simple queues, donc voilà. Après, il y a la partie topics. Donc là, pour les topics, je vais pouvoir créer un nouveau topic. Donc par exemple, je vais créer, des commandes. Donc un topic des commandes. Et puis, je vais ajouter un abonnement. Donc par exemple, je vais récupérer toute commande. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir ajouter un autre abonnement, donc abonnement 2, par exemple. Voilà. Et puis, ensuite, je vais pouvoir envoyer des messages donc dans ce topic. Donc, je vais faire un « Hello World ». Je vais envoyer un autre message qui va être « Bonjour le monde ». Et puis, à partir de là, je vais pouvoir recevoir tous les messages. Donc là, quand je vais recevoir tous les messages, il va me dire que dans... donc, il reçoit d'abord des messages. Donc, il dit « Dans l'abonnement, toute commande, j'ai reçu Hello World. » Et si je reçois à nouveau, je vois que dans chacun des abonnements, j'ai reçu ça. D'accord. Et je peux ajouter d'autres abonnements après coup. Donc, si j'ajoute, par exemple, un message... Non, pardon. « Bonjour le monde », on va dire « 2 ». J'ajoute un message ici, bonjour le monde 2, et je vais rajouter encore un autre abonnement ici. Donc là, abonnement 3. Voilà. À partir de. Et puis là, bonjour le monde 3. Et quand je vais recevoir mes messages, le premier message, donc bonjour le monde, je le reçois sur toute commande et sur abonnement 2. Et le troisième message, je le reçois lui aussi sur. Je vais recevoir aussi dans le troisième abonnement. Donc voilà. Et puis après, je peux supprimer les abonnements, je peux supprimer également les topics. On en arrive au clou du spectacle avec. La partie picklock abandon and complete. Donc là, l'intérêt aussi, c'est le fait qu'on puisse recevoir les messages de façon concurrente et puis également que chacun des serveurs puisse éventuellement tomber, un peu comme dans le même mécanisme qu'on a entre les web roles et les worker roles.
Et Azure. Ouais.
Voilà. Donc là, par exemple, je vais envoyer un rond, un triangle et un carré, j'envoie ça. Et quand je vais pouvoir dans la queue, et quand je vais pouvoir, je vais récupérer un message. Donc là, par exemple, je reçois un rond. Et donc à partir de ce rond, je peux soit le sélectionner puis le laisser expirer, c'est-à-dire que là, je simule la machine qui a commencé à traiter, etc., mais qui, en fait, au bout d'un certain temps, va tomber, et donc le message lui-même va disparaître et va redevenir disponible, ce qui fait que si quelqu'un d'autre le récupère, on va avoir à nouveau le message. Donc là, on peut effectivement, une fois qu'on a fini de le traiter, faire un complete, et donc si je récupère un autre message, je vais avoir le triangle, et le carré, par exemple, là, si je récupère ces deux-là. Et puis, par exemple, sur le carré, je peux abandonner le carré. Donc, du coup, si je récupère à nouveau, je peux l'avoir abandonné, puisqu'il est dedans.
L'autre a expiré.
L'autre a expiré entre-temps en timeout. Donc, voilà. Donc, celui-ci, je le traite. Et il nous reste donc notre triangle qu'on peut traiter complètement. Voilà. Et normalement, j'ai plus rien ici.
Okay.
Donc, voilà pour cette démonstration de l'utilisation de service bus sur la partie asynchrone. Donc, c'est assez facile à mettre en œuvre. Il suffit de créer un namespace et puis ensuite de l'utiliser comme ça. Donc, voilà.
Excellent.
Nous en arrivons à la suite de notre épisode, qui est la fin. Donc, on se retrouve à peu près dans un mois.
Oui. Dans un mois pour de nouvelles aventures. Il y aura peut-être des news dans un
peut-être.
Mois.
On n'a pas encore fixé la date du prochain enregistrement. Peut-être que d'ici là, il y aura aussi d'autres témoignages.
Ah oui.
Regardez aussi les épisodes de témoignages, ça c'est intéressant. La dernière fois, Pierre a rencontré
News Republic, oui, on a
Mobile Republic
et globalement.
Dit News Republic.
Ouais. Et donc on a découvert comment il tenait quelque chose comme 3 millions d'installations et 1 million d'utilisateurs sur Azure. C'était assez impressionnant.
Ouais. Donc, vraiment intéressant, effectivement, comme
épisode. Des retours d'expérience, toujours intéressant.
Très bien, eh bien, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et puis, on se retrouve.
Soit le 24 mai pour la partie Hadoop tous ensemble, soit en ligne sur le prochain bulletin.
Voilà, exactement.
Super.
Merci
à tous.
Merci à tous, au revoir.
Au revoir.